Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0!
Cacca in percussione, Sciacca all'ingresso in aria ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca, rete, 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 Cacca!
Pallone che arriva, Trezeguet! Totti! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo!
E la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume!
Bonjour Monsieur Yohann Crochet, bonjour tout le monde. Comment tu vas Yohann?
Eh ben écoute, on a quelques jours de la reprise de la Serie A.
Donc oui, ça arrive bien.
C'était long cette intersaison. C'était trop long avec en plus des matchs à 4h du matin si on veut suivre.
Les matchs amicaux.
Ouais, ça c'est catastrophique mais bon. Écoute, c'est la reprise de la Serie A donc ça c'est vraiment cool. Et puis aujourd'hui on va faire un podcast qui n'est pas en rapport avec la Serie A pour le coup. Mais avec la nationale, puisqu'on l'a appris au début de ce week-end prolongé du 15 août, pour ceux qui ont la chance de faire le pont, eh bien Roberto Mancini quitte la nationale après 5 années à la tête de la sélection nationale. Je rappelle qu'il a gagné, enfin, pas tout seul évidemment, mais à la tête de la sélection, a gagné 1 euro, l'Euro 2020 qui s'est disputé en 2021. Et du côté des points noirs, hein, Guillaume, il y a cette non-qualification à la
Coupe du Monde. Très gros point noir.
Ouais, très gros point noir 2022, sachant que c'était la deuxième fois consécutive, la première fois avec le génialissime Ventura. on va essayer d'être didactique, mon cher Guillaume. Oui. Commençons par les raisons du départ de Mancini, surtout que ça va être assez frais, puisque oui. Jusque-là, on a vu le côté plutôt fédération. Avec un simple post Instagram pour Roberto Mancini, mais on enregistre, on est le 15 août. Roberto Mancini a fait les choses en grand avec une multitude d'interviews données à la presse italienne, d'ailleurs pas simplement la presse sportive, mais aussi la presse
généraliste.
Ouais.
Voilà, bien sûr, il a parlé aussi à la République, hein, il a parlé à Libero, qui avait sorti l'exclusivité d'ailleurs sur le départ de Mancini dimanche dernier. Alors oui, Mancini qui a donné sa version, qui a dit... Alors, on va évidemment résumer, mais en gros, il sentait un manque de confiance de la part du président de la Fédération italienne, la Fédici, Gabriele Gravin. Il lui reproche notamment aussi la refonte de son staff, où il dit notamment, mais est-ce qu'on a déjà vu un président de fédération changer le staff d'un sélectionneur, en gros, en le prévenant, mais sans lui demander en amont. Il se plaint aussi de cette clause qui existait dans son contrat, où en fait, si Mancini ne parvenait pas à qualifier la sélection à l'Euro 2024, la Fidji pouvait le débarquer, donc pouvait le virer. Et Mancini avait demandé à la retirer, ce que n'avait pas fait Gravin. Donc, il y avait vraiment des visions différentes, selon lui, entre les deux. Il reproche à Gravina aussi une volonté en coulisses de le faire partir depuis plusieurs mois, au point que quand il lui a annoncé son départ via un mail certifié, la fameuse PEC, hein, ouais, qu'on revoit partout en ce moment. Voilà, c'est un mail en gros certifié, hein, comme une lettre recommandée, où généralement tu demandes quelque chose de formel, et que comme Mancini l'a envoyé samedi soir depuis la Grèce et Mykonos, où il est actuellement en vacances, il a envoyé cette lettre de démission, ce mail de démission à Gravina. Il a visiblement pas retenu beaucoup. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup de problèmes en coulisses, Johan, qu'on ne savait pas quand même en public, ouais, parce que c'est quand même arrivé de nulle part. Cette démission et toutes ces frictions. On rappelle que Mancini aussi avait été nommé en gros superviseur des U21 et U20, et il avait été quand même renforcé dans sa position il n'y a même pas une semaine. Donc voilà, c'était vraiment une énorme surprise en Italie, un énorme choc. On peut dire aussi dans les médias qu'il y a eu une prise de position assez forte contre Mancini, pas tant contre son départ, mais sur le fond et sur la forme.
Ouais.
Parce que voilà, il s'en va à 3 semaines, même pas, de 2 échéances contre l'Ukraine et la Macédoine, décisives évidemment pour la qualification de l'Euro 2024. Donc, il y a eu des prises de position assez fortes, au point que Mancini a parlé d'un massacre médiatique, et c'est pour ça qu'il a tenu à répondre à certains quotidiens, pas à tous étrangement. Donc voilà, il y a eu quand même deux camps qui se sont opposés assez fortement. Et aujourd'hui, voilà, le nom qui revient avec insistance, on en parlera ensuite, c'est celui de Luciano Spalletti. En tout cas, Johan, voilà, pour contextualiser un peu le départ de Mancini, une grosse surprise en Italie.
Alors, on va reprendre, si tu le veux bien, les arguments avancés par Mancini.
Oui.
Et je vais te poser des questions à chaque fois. le premier argument étant le manque de confiance qu'il ressentait. Alors, sans entrer dans les détails de relations dont on n'a pas la teneur ou de discussions dont on n'a pas la teneur exacte, est-ce que quand tu passes de simple sélectionneur à sélectionneur plus superviseur des U21 et des U20, c'est-à-dire que tu chapeautes toute la stratégie sportive à partir des U19 de la désélection nationale au sens large, est-ce que pour toi il y a un manque de confiance là-dedans?
Non. Et en plus, on peut rajouter qu'il y avait des négociations en cours pour une revalorisation salariale. Exactement. C'est-à-dire que deux sélectionneurs, Mancini passait de superviseur, de salaire, il touchait de mémoire 500 000 euros, et là, il y a des négociations pour revoir son salaire à la hausse. Donc, pour moi, si tu n'as pas confiance en ton sélectionneur, déjà, tu l'aurais viré bien plus tôt, parce que voilà, on pourra en parler après, il aurait pu partir, mais plus tôt, et évidemment, tu ne renforces pas son pouvoir. En gros, c'est Mancini vraiment était au centre du projet de la sélection. C'était même schéma tactique pour toutes les sélections. Regard sur les joueurs convoqués dans les sélections plus jeunes. Il y avait aussi l'un des collaborateurs de son staff, voilà, qui avait été nommé à la tête du U20. Donc, si tu veux, il n'y avait vraiment pas du tout la sensation, et d'où la notion de surprise en Italie. C'est parce que c'est pas quelque chose qui arrivait à la suite de frictions qu'on est au courant. Là, c'était vraiment à la suite, une semaine plus tard, de ce que tu viens de dire, de son passage en tant que superviseur des sélections de l'Italie.
Je te pose une deuxième question, Guillaume. Est-ce que la présence de cette clause en cas de non-qualification à l'Euro 2024 te semble anormale?
Non, parce que déjà, c'est un peu interrogatoire, Yann, tu me fais peur. Mais, mais en tout cas, Mancini, lui, a dit, non, mais dans tous les cas, moi, je serais parti si je ne m'étais pas qualifié lors du 2024. Mais dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi il renonce à cette clause-là.
Voilà.
Si tu dis, non, mais dans tous les cas, moi, je serais parti si il n'y aurait pas eu de qualification lors du 2024, pourquoi dans ce cas tu n'acceptes pas cette clause qui, en gros, bah, alors certes, ça permettait ton licenciement, mais ça voulait quand même dire que tu étais prêt à négocier des indemnités en cas de départ si Vitali ne s'était pas qualifié. Donc, après ce qui s'était passé contre la Macédoine, on peut dire qu'il a vraiment gâché le succès à l'Euro un an avant.
Oui, totalement.
Même si le souvenir est exceptionnel pour tout le monde, cette non-qualification a vraiment été un énorme point noir et c'est quelque chose voilà, qui est compliqué à digérer pour tout le monde encore aujourd'hui. Mais cette clause-là, si elle était dans son contrat, je présume quand même que Mancini l'avait accepté en amont. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi il a voulu revenir dessus et Yvan, on le reprécise, comme son mail de démission, il envoyait du coup une PEC, ce mail certifié le 7 août dernier via sa femme qui est avocate et qui le représente. Il avait envoyé le 7 août un mail certifié à Gravina en demandant officiellement et concrètement le retrait de cette clause. Et Gravina n'y avait pas répondu favorablement.
Et enfin, le dernier élément, Guillaume, là où je vais dans le sens de Mancini, contrairement aux deux autres, où, de la manière avec laquelle je t'ai posé les questions, tu te doutes bien que j'étais d'accord avec toi sur
oui, l'analyse.
Par contre, moi, je ne comprends pas le changement de staff autour de lui, en fait, sans son accord, sans en avoir discuté au préalable, en fait. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Ce staff, il a aussi montré qu'il était capable de très bien travailler ensemble, en fait, de aussi bien sur la partie terrain que sur la partie, on va dire, environnement, ambiance, cohésion, etc., etc. C'est vrai que cet argument-là, pour moi, de Mancini, se tient totalement.
Vas-y, Yann.
Non, mais c'était juste pour dire, voilà, cette volonté de chambouler le staff, même si tu peux avoir tu fais des retouches, etc. Là, si tu n'as pas des retouches, en fait, il en restait plus qu'un de collaborateurs. Donc, c'était pas une retouche, là. C'était repeindre du sol au plafond, en fait.
Exactement. Il est passé, on peut le dire, de ces quatre collaborateurs qui étaient Evani, Lombardo, Nucciari et Sarsano. Et en fait, il ne restait plus que Sarsano. Et Evani, Lombardo et Nucciari sont partis. Donc, voilà, de ces quatre collaborateurs, ils n'en ont gardé qu'un. Il y a eu l'arrivée de Buffon aussi. Alors, Mancini a dit non, mais Buffon, il n'y avait aucun problème. Là-dessus, je peux le croire, mais c'est vrai que lui n'avait pas forcément été consulté en amont parce que Buffon aura un rôle de chef, en gros, de la délégation avec un rôle assez ample au sein de la Fidici. Mais c'est vrai qu'on a rarement vu, pour le coup, un président de fédération imposer un staff à un sélectionneur ou du moins une refonte aussi ample. Comme Mancini l'a dit dans son interview et dans ses interviews plutôt, il avait dit « moi, j'aurais accepté une ou deux nouvelles figures ». Voilà, dont l'arrivée notamment de Barzagli, l'ancien défenseur dans le staff, mais de là à tout refaire, tout reprendre, alors que tu avais quand même quelque chose d'assez stable. Et là où Mancini a raison aussi, c'est que ce staff-là avait gagné l'Euro 2021, parce que malheureusement, à part Viali qui a disparu entre-temps, le staff était resté quand même.
Il y avait De Rossi aussi qui était venu.
Oui, exactement. Mais entre-temps, qui a voulu reprendre même démarrer ses carrières d'entraîneur. Mais voilà, c'est certain que te voir imposer des collaborateurs et ceux que tu as, et on le sait pour les entraîneurs et les sélectionneurs, les collaborateurs, c'est hyper important dans le quotidien. C'est une relation de confiance qui est nouée et qui est longue à s'instaurer. Donc là-dessus, je suis un peu comme toi. Je comprends Mancini parce que voilà, ça a dû un peu l'irriter. Il a dû y voir quand même un sentiment de méfiance où c'était gouverné vers le haut et il s'est senti un peu des choix qu'il n'a pas accepté et d'où son choix aussi de démissionner de son poste de sélectionneur.
Il y a un dernier élément, Guillaume, que j'ai du mal à saisir dans ses nombreuses interviews ce matin. Il explique quand même qu'il a envoyé sa démission en espérant qu'on le retienne. J'ai du mal avec le concept quand même.
Surtout qu'en plus, c'était quelque chose de très formel. Tu vois,
c'est pas en espérant qu'il le retienne, mais en reprochant à Gravina de ne pas avoir tout fait pour essayer de le dissuader par rapport à la décision qu'il venait de prendre. Je trouve ça bizarre.
C'est même un peu infantilisant, tu vois, même pour Mancini, de se dire attendez, je m'en vais, mais retenez-moi. À la limite, alors on sait que Gravina et Mancini ont une conversation assez longue au téléphone. Alors, selon les sources, c'était vendredi soir, avant du coup, à la veille de l'émission et apparemment, jamais Mancini n'avait prononcé la parole d'émission. Donc, si tu veux, à la limite, imagine Mancini voulait se faire un peu désirer, il l'aurait, entre guillemets, il aurait voilà, menacé verbalement de démissionner. Mais une fois que tu envoies un mail certifié, officiel, via ton avocat, pour moi, le retour en arrière est impossible. C'est tellement avancé que je voyais mal Gravin à dire non, attendez, non, Mancini reste avec nous, on veut te garder. Surtout Johan, et on peut aussi en parler. Alors, le départ de Mancini, alors je ne sais pas toi, mais pour moi, il aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt, et justement après ce drame entre guillemets sportif face à la Macédoine, parce que moi, je voyais quand même un Mancini moins enthousiaste, moins souriant, moins épanoui dans son rôle. Tu sais, j'ai regardé le. Après la démission sur Sky, il y a Fabio Carres et Beppe Vergo, le fameux duo qui ont parlé en même temps à Sky, juste après, où ils ont dit que lors de la Nations League, et notamment après le match face aux Pays-Bas pour la troisième place, eux étaient sur place et ils ont vu quand même dans les yeux de Mancini, même dans les paroles, un sélectionneur qui n'y était plus, ou du moins qui n'avait plus vraiment envie.
Ouais, mais alors, ce qui me dérange, Guillaume, c'est que c'était il y a 2 mois, ça.
Ouais, bien sûr.
Donc là, tu viens de perdre 2 mois, alors que tu as des matchs de qualif qui arrivent dans 3 semaines. Donc, c'est pour ça que le timing non plus interroge, mais en fait, a énervé tout le monde en Italie.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et ensuite, c'est vrai qu'avec après la Ligue des Nations, souviens-toi les alors ça a jamais été un grand bavard, ça a jamais été quelqu'un de même tout court hein, de très intéressant lorsqu'il prend la parole sur le football, oui. Roberto Mancini. Enfin moi j'ai jamais eu une conférence de presse où je me suis dit ah ouais, la vache, j'ai pris une claque, non jamais. C'est vraiment un robinet d'eau tiède et des poncifs à n'en plus finir. Mais il y avait quand même un début d'entrain ou quelque chose qui faisait que on ne parlait pas du fond parce que la forme, ça allait en fait. Et là, après la liquidation, moi je me souviens d'avoir parlé à la radio, on me disait, alors Mancini, et je dis, comme toi, quoi, en fait, il n'y est plus, il n'est plus
et du tout motivé. Tu l'avais remarqué quand même. Tu l'avais remarqué.
Mais bien sûr, ça se voyait. Mais alors, après la Ligue des Nations, c'était vraiment trop flagrant. Enfin, je veux dire, la manière dont il répondait. Genre, bah ouais, c'est comme ça. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer? Bah, on doit travailler. Ok. Bah, en fait, si t'as pas envie d'être là, tu le dis et t'arrêtes, quoi. Y a pas de problème, en fait. Donc, moi, je trouve que ça s'est vraiment accentué là, au moment des mois de juin où t'as l'impression qu'en fait, il était là parce qu'il s'accrochait à son contrat, mais sinon, s'il avait eu des opportunités, il aurait répondu favorablement. Et c'est un point qu'il faut évoquer, hein, Guillaume. La presse italienne dans son ensemble se fait quand même l'écho aussi d'une, d'une offre très importante en provenance d'Arabie Saoudite pour le poste de sélectionneur national. Et tout le monde se dit en Italie, attention, là ce que tu viens de nous raconter ce matin, ok, mais attention, si dans 15 jours, 3 semaines, ou moins, tu prends le poste de sélectionneur de la sélection saoudienne,
c'est exactement ça.
Difficile de te croire.
Et lui l'a confirmé d'ailleurs, hein. Il a dit oui, c'est vrai qu'il y a un intérêt de l'Arabie Saoudite, mais selon ses propos, je cite, sa démission n'est pas liée directement à ça. Par contre, c'est évident que si dans 15 jours, il devient, parce qu'on rappelle que l'Arabie Saoudite va jouer des matchs amicaux aussi, donc il va devoir y avoir un sélectionneur. Si Mancini s'assoit sur le banc de l'Arabie Saoudite début septembre, on aura quand même quelques doutes sur le fond de tout ce qu'il nous a dit en ce 15 août quand même, parce que ce timing-là quand même est très étonnant, Johan, tu le sais, à Ferragosto en Italie, c'est quelque chose qui est très sacré, où on ne prend pas sur des décisions-là. À 15 jours de deux échéances, on l'a dit, qui sont importantes pour la sélection, dans ce cas-là, pourquoi tu ne l'as pas décidé beaucoup plus tôt? Alors certes, voilà, il y a eu cette refonte de son staff, mais encore une fois, il a vu ses pouvoirs se renforcer globalement, donc... Ouais, c'est moi le timing m'interroge surtout si Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de doutes, je pense, sur l'offre saoudienne, parce que tout le monde le confirme. Après, voilà, selon les sources, le salaire, on va dire, varie, oui. Mais c'est entre 40 et 60 millions d'euros sur 3 ans, ce qui est énorme. Mais à la limite, si Mancini avait été honnête, tu sais bien, en disant, bah, écoutez, c'est une offre que je ne peux pas refuser, alors, voilà, il se serait fait aussi taper sur les doigts. Hein. Mais par contre, voilà, on va vraiment surveiller de près le timing de sa possible nomination à la tête de la sélection saoudienne, parce que c'est certain que c'est dans 2 semaines, comme je viens de le dire, il est sur le banc. Ouais, on comprendra mieux pourquoi elle a démissionné un 15 août à une vingtaine de jours des échéances de pour l'Euro 2024. Ce serait très, très étonnant si les deux n'étaient pas liés. Moi, cette version-là, j'y crois quand même très peu. Après, si voilà, il n'y a pas d'évolution favorable à sa nomination du côté de l'Arabie Saoudite, alors là, d'accord. Par contre, moi, aujourd'hui, alors peut-être que je serai démenti dans quelques semaines, mais j'ai quand même un doute sur le fait que les deux soient pas liés, en tout cas pour ma part.
Alors, Guillaume, avant de passer à son, je sais pas si on doit dire éventuel, probable, fort probable, certain successeur, je me suis noté quelques points sur ce que je retiens du passage de Roberto Mancini à la tête de la Nazionale. Tu vas me dire ce que tu en penses.
Oui.
Le premier point que j'ai noté, c'est le courage dans le choix des joueurs à appeler, et notamment des jeunes joueurs, hein. C'est plus des jeunes joueurs que des joueurs tout court. Très récemment, on a évidemment eu le cas de Pafundi de l'Udinese, qui est quand même assez emblématique, même s'il a évidemment grossi le trait en disant dans ma liste des, c'est pas 23 lui, puisqu'il en prend toujours beaucoup plus, mais dans ma liste, je mets d'abord Pafundi, ensuite les autres. Bon, ok, on a compris le message, mais en fait, on sait très bien que c'est pas comme ça. Il y a, souviens-toi, le cas de Zaniolo aussi, qui avait été convoqué alors qu'il n'avait même pas joué la moindre minute avec la Roma. Ça aussi, c'est un choix courageux. Le deuxième point, c'est, ça découle un peu de ça, c'est son insistance pour changer la mentalité en Italie, faire beaucoup plus confiance aux jeunes, appeler à une sorte de révolution culturelle qui est un petit peu en marche, mais qui a du mal quand même à prendre de manière très générale en Italie. Le troisième point, je te l'ai fait tous, après tu me diras un peu ce que tu retiens de manière prioritaire peut-être. Le style de jeu qui esthétiquement était moderne et agréable à l'œil pendant très longtemps, alors peut-être pas les dernières semaines, mais pendant très longtemps. Souviens-toi même les matchs de juin de l'année dernière, je crois que c'était ça, hein, avec les matchs contre l'Angleterre, contre... qu'il y avait d'autres. Il y avait l'Angleterre, normalement, ça c'est sûr, où il y avait un 0-0, tu sais, avec le match de Gatti qui pareil, dans les choix des jeunes joueurs, entre guillemets, bah, Gatti oui, qui était encore au Frosinone. Et, voilà, il y avait eu des bonnes choses quand même, où c'était un moment où.
Mais Pellegrini... tu sais, même Retegui, hein. Retegui,
ouais,
qui l'a appelé récemment.
Tout à fait. Ça fait partie des choix très forts, tu as tout à fait raison. Donc il y avait ce style-là qui était agréable. Il y a évidemment l'Euro 2021 qui est gagné avec style. Et puis ensuite, les deux points très négatifs, mais on est déjà revenu dessus, c'est les dernières semaines où il semblait vraiment plus du tout motivé, où on a un peu l'impression qu'il se moquait du monde, pour rester gentil. Et évidemment, bah, la non-qualification à la Coupe du Monde 2022, ça, pas besoin de rajouter là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu retiens de manière
bah, écoute,
médiate
fait, ouais, bien sûr. Alors, tu as fait globalement le bilan, on va dire, du Mancini à la tête de la sélection. Moi, ce que je retiens, on va dire, en priorité, si je veux rajouter quelque chose, c'est un peu la gestion du groupe aussi, mm-hmm. où tu vois, contrairement à Ventura, où c'est très mal fini, où la cassure avait été énorme avec le vestiaire, pour le coup, j'ai pas eu cette impression-là dans son équipe, dans les joueurs. Il n'y a jamais eu une parole de travers envers Mancini. On sent quand même qu'en interne, alors pas avec la fédération, mais du moins la relation Mancini-joueur, a toujours été plutôt bonne, même après l'Euro, même après l'élimination face à la Macédoine, où il y aurait pu y avoir une cassure assez forte. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de témoignages en faveur de Mancini de la part des joueurs. Donc, on sent quand même qu'au niveau de la gestion, il a toujours eu ce groupe en main. Les joueurs l'ont toujours suivi. C'est quand même quelque chose d'important en sélection, parce que ce n'est pas simple. Hein. On rappelle, c'est des joueurs qui se retrouvent tous les 2-3 mois, qu'il faut toujours recréer ce collectif, cet esprit. Et c'est vrai que l'Euro 2021 a été quand même dans la gestion. Alors, évidemment, tu as parlé du jeu, mais c'est vrai que la gestion même de cette épopée d'un mois qui a été exceptionnelle à tous les niveaux. Et on sait aussi que quelqu'un comme Gianluca Vialli a une énorme importance aussi dans cette gestion-là. C'est un peu un binôme, hein, d'ailleurs, à la tête de la sélection. Mais c'est vrai qu'il a toujours su quand même gérer ce groupe à la perfection jusqu'au bout. Même si, voilà, cette ce qui traînait, cette espèce de lassitude, tout le monde la voyait, mais en tout cas, avec ce groupe-là, il y avait quand même une espèce de symbiose qui a toujours fonctionné. Moi, je le reproche un peu, mais c'est quelque chose que je peux comprendre aussi, tu sais, c'est un peu ce virage qu'il n'a pas pris après l'Euro, où il a vraiment fait confiance à ce groupe qu'il avait créé, et où il a eu du mal quand même à prendre le virage, tu vois, te faire éliminer contre le Portugal en finale du barrage, je peux le comprendre. Contre la Macédoine du Nord, pour le coup, c'est vraiment une question de choix pour moi, où sur le terrain, tu n'avais pas les meilleurs joueurs, tu n'avais pas les joueurs
avec
les plus en forme.
Fameuse entrée de João Pedro.
C'est vrai qu'on oublie. Mais tu vois, voilà, pour moi, elle a eu du mal. Alors, c'est souvent un problème de reconnaissance, de beaucoup de choses, ouais. Par rapport à un groupe qui avait gagné, qui l'a emmené au sommet. Mais voilà, moi, je t'avoue que, alors, on a tous vécu des moments, et je pense que les tifosi qui nous écoutent ont d'énormes souvenirs. On se rappelle tous de cette épopée de l'Euro qui était exceptionnelle et vraiment merveilleuse. Après, voilà, la Coupe du Monde, l'élimination contre la Macédoine, c'est quand même, aujourd'hui, c'est encore dur à digérer parce que tu n'avais pas le droit. Pas contre la Macédoine. Contre le Portugal, je veux bien, mais contre la Macédoine, non. Et ça reste quand même une énorme tâche à son CV. Et pour moi, c'est à ce moment-là qu'il aurait dû partir. Et d'ailleurs, tous les quotidiens, quand même, le disent, hein, où, en gros, tout le monde a compris. Et d'ailleurs, Mancini le dit lui-même, il a dit, j'ai songé à partir après cette élimination-là, mais j'avais été retenu. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, ce manque de confiance qu'il souligne aujourd'hui, dans d'autres fédérations, une élimination de ce genre-là, je pense qu'il y aurait beaucoup de démission de la part des sélectionneurs, formelle, même si tu étais retenu, tu aurais pu démissionner quand même. Et tu aurais beaucoup aussi de présidents qui auraient pu dire, non, écoute, c'est fini. Et voilà, c'est la fin d'un cycle. Et ils ont voulu continuer tous les deux, Gravina et Mancini, et ça n'a pas marché. Mais c'est, pour moi, vraiment, le timing, c'est plutôt le timing, tu sais, qui me dérange de cette décision-là. Sur le fond et sur la forme, ça peut discuter, mais vraiment, le timing, un 15 août, avec ce qui arrive pour l'Italie, c'est un peu compliqué à comprendre et à digérer, mais en tout cas, voilà, le bilan, il y aurait eu du bon, du moins bon. On peut rappeler qu'il avait hérité aussi d'une sélection qui était en morceaux, en lambeaux, après le passage de Vento. Là, donc, il a rebâti sur des ruines, il a construit quelque chose de beau, qui aujourd'hui, est un peu. Il y a un sentiment quand même on a un peu très laissé en longueur, ce qui est dommage, mais en tout cas, il y aurait eu du bon et du moins bon de la part d'Imanch, qui aura quand même été le troisième sélectionneur au nombre de caps, Johan, parce qu'il sera resté quand même 5 ans.
Pozzo et
rien.
Berzot, non, c'est ça, les deux premiers.
Exactement. Donc, c'est pas rien. Il y aurait eu une espèce de longévité, malgré les épreuves, malgré les choses qu'on aurait pu faire, qu'à un moment, ça aurait pu s'arrêter.
Il y avait eu quoi? C'était combien? C'était 37 ou 38 matchs consécutifs sans défaite?
Oui, exactement.
Je me souviens plus à combien ça s'est arrêté. C'était 37 ou 38, je crois.
C'est vrai qu'il y a eu cette longévité, c'est vrai, tu as raison, de match d'invincibilité, qui s'est terminé. Alors, je ne sais plus contre quelle équipe. J'ai un trou.
Il me semble que c'était juste après l'Euro gagné, d'ailleurs. J'ai un trou
Mais oui, mais ça avait été une très longue série.
Exactement. Avec quand même. Alors, il y avait des matchs qui étaient plus simples, mais il y avait eu des matchs aussi contre les Pays-Bas, le Portugal, etc. etc. Donc, on verra ce qu'il adviendra de notre ami Roberto Mancini dans quelques jours, semaines ou mois. Il y a sans doute aussi d'autres choses qui évolueront, notamment. On va en parler très succinctement, Guillaume. Ce que je te propose, c'est qu'on en fera un petit podcast d'actu aussi quand ça sera officiel. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le très 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 grand favori, c'est Luciano Spalletti à l'heure actuelle. Qu'il y a un obstacle majeur, Guillaume, c'est cette fameuse clause imposée par De Laurentiis pour libérer Luciano Spalletti à la fin de la saison dernière. Je te propose juste d'aller en une minute nous expliquer un peu cette histoire de clause. Après, on refera un podcast spécial Spalletti, c'est lui qui est bien nommé.
Ouais. Alors en fait, quand De Laurentiis et Spalletti ont stoppé, on va dire, leur collaboration à la fin de saison dernière avec Napoli après le titre, Spalletti a dit moi je veux partir. De Laurentiis a dit ok, moi je te libère, à une condition, c'est que tu ne retrouves pas d'équipe d'ici au début de la saison 2024-2025, donc l'année prochaine. Et donc, une clause a été convenue entre les deux, une espèce de clause libératoire. En fait, c'est une clause au 30 juin 2023 qui était de 3 millions d'euros et qui, chaque mois, baisse de 250 000 euros. C'est-à-dire que le 30 juin 2024, elle sera à zéro. Donc, en fait, aujourd'hui, la fédération, si elle veut récupérer Spalletti, on va dire, qui n'est plus Napoli, mais qui, entre guillemets, est toujours sous contrat avec Naples, il faut qu'elle verse 2,6 millions. Mais dans un mois, ce sera un peu moins, ce sera 250 000 euros en moins. Donc en fait, c'est une clause, on va dire, régressive qui baisse avec le temps, mais qui aujourd'hui bloque parce que l'Italie, la fédération italienne, ne veut pas verser cette clause-là à Naples. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, Johan, qu'une fédération verse ça à un club.
Je suis d'accord.
C'est assez particulier, même pour les autres équipes de Serie A, c'est assez étonnant. Parce que je pense que cette hypothèse-là n'avait pas été prise. Je ne sais pas s'il y a cette parole fédération dans le contrat, mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est un scénario qui est assez surprenant. Et De Laurentiis dit non. Moi, j'avais dit que s'il retrouve une équipe, il y aura cette clause-là et elle est valable pour les fédérations et pour les équipes. Alors que les avocats de la fédération disent non, c'est valable que pour les clubs. Mais en tout cas, voilà, c'est aujourd'hui une clause de 3 millions qui est passée à 2,6 millions et qui est régressive jusqu'au juin 2024.
On verra donc si c'est bien Luciano Spalletti, sachant que l'autre possibilité, si jamais il n'y a pas d'accord trouvé, c'est Antonio Conte. Et autant vous dire que je préférerais largement voir, à titre personnel, Luciano Spalletti à la tête de la sélection.
Ce serait un peu le couronnement de sa carrière, hein, à Spalletti. Ouais, je pense vraiment. Alors, je crois qu'il doit avoir peut-être 67 ans. Je vais vérifier en direct, mais je crois qu'il est dans ces eaux-là. L'ami Spalletti, il a 64 ans. Il a 64 ans, donc il vient de gagner le titre, son premier en Serie A, après l'avoir fait pendant longtemps, notamment avec la Roma. Là, il pourrait récupérer la nationale. Ce serait vraiment pour moi l'aboutissement d'un peu de la carrière de Spalletti, qui a toujours été un entraîneur respecté, apprécié en Italie. Bon, à la Roma, c'est un peu différent, Johan, on va partir à l'histoire. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ce serait vraiment un peu le couronnement de sa carrière. Et si je suis de ton avis, Conte, en plus, ce serait un deuxième passage. Donc, Spalletti, voilà, son jeu, ce qu'il prône, c'est totalement différent. Donc je mets vraiment aujourd'hui toute l'Italie vote Spalletti. Hein. Il n'y a pas beaucoup de doute. Donc, voilà, on verra si ça se confirmera. Mais on aura le temps d'en reparler, évidemment, dans un prochain podcast pour un peu faire les compos, ce qu'il va vouloir imposer. Donc, on espère tous que Spalletti va réussir à se libérer de cette clause-là.
Voilà, mon cher Guillaume, on est revenu sur le tremblement de terre de la fin de semaine en Italie, avec le départ de Mancini, les raisons, ce qu'on retient de son passage, etc. On est sur d'analyser un petit peu au-delà de la communication officielle des deux camps. N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, de partager le podcast au plus grand nombre possible. C'est aussi ce qui permet au podcast de remonter dans les classements sur Apple Podcast, sur Spotify, etc. etc. Donc, n'hésitez pas, surtout pas, à nous soutenir ainsi. Et puis nous, Guillaume, on se retrouve très rapidement pour un nouveau podcast, et quelque chose me dit qu'on va parler de l'AC Milan. À très vite,
Johan.
Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.